last year Sidney Lumet was here, and he had a very good time. So I said yes this year, and I'm happy to be here.
The only relationship to a Hollywood studio is whether the picture makes money. If it makes money, there's no problem. It could be about the beautiful life of Fidel Castro. They would do it if they thought it would make money.
Journal du festival, épisode 1. Du lundi au vendredi, en seconde partie d'Info 30, on vous propose cette émission consacrée à l'actualité du Arras Film Festival.
Au sommaire, l'agenda du jour. Patrick nous proposera une chronique du film J'accuse de Roman Polanski.
Avant ça, Charles, tu nous proposes un entretien avec l'historien Jean Gilly. Il participait samedi après-midi à la table ronde « Le cinéma et l'Italie fasciste ».
Jean Gilly, vous êtes historien du cinéma, spécialiste du cinéma italien. On vient de passer un bon moment ensemble autour d'une table ronde sur le cinéma et l'Italie de Mussolini. Ma première question, en quelques mots, comment le cinéma rencontre des mémoires historiques de cette période Mussolini ?
Il y a eu énormément de films. Ce sont deux sujets très différents. Il y a les films tournés pendant le fascisme, et puis il y a les films tournés qui évoquent le fascisme après coup. Dans les années d'après-guerre, à partir de 1945, le fascisme a été un formidable sujet pour les scénaristes. On s'est beaucoup inspiré, le cinéma italien, si on devait faire une filmographie des films italiens évoquant le fascisme marginalement ou au contraire en étant au cœur du sujet, par exemple Une journée particulière, on en trouverait des dizaines, probablement même des centaines. Ça a alimenté une espèce d'imaginaire, de réflexion sur ce passé, qui est un passé douloureux, mais certainement il y a eu beaucoup plus de films italiens sur le passé fasciste qu'il y a eu de films allemands sur le passé nazi.
Si on devait trouver plusieurs adjectifs, comment pourrait-on qualifier cette période cinématographique ?
À la période fasciste, elle n'est pas si facile que ça. C'est à la fois une période où, d'abord, on tourne beaucoup de films. Entre 1930 et 1943, on tourne plus de 700 films. Donc ça fait un corpus relativement riche, avec des films de nature très différente. Et il y a là à la fois des bluettes, beaucoup de bluettes, mais il y a aussi quelques films de propagande, peu nombreux. Et puis il y a aussi des films extrêmement sérieux, qui évoquent, qui donnent de cette période une image finalement plus complexe qu'on ne le pense généralement.
Cette année, la programmation, notamment sur l'Italie de Mussolini, est quand même assez riche. Peut-être vous pouvez nous en dire un mot.
C'est un beau sujet parce que... Bon, d'abord, le festival est né ici depuis 20 ans. C'est déjà pas mal. Moi, je suis venu ici pour la première fois, lors de la première édition, pour accompagner un cinéaste italien qui était Francesco Rosi, qui était venu tenir une espèce de leçon de cinéma. Et aujourd'hui, c'est d'une certaine façon revenir un peu aux origines, en montrant que l'histoire du cinéma italien ne commence pas en 1945 avec le néoréalisme. Il y a le cinéma de l'époque fasciste, qui est un cinéma moins marqué qu'on ne le croit généralement par l'idéologie au pouvoir, et qui surtout, de par les thématiques qui sont les siennes, alimente la production d'après-guerre.
Et j'ai appris une chose étonnante en vous écoutant tout à l'heure, c'est le fils de Mussolini, Vittorio, me semble-t-il, était cinéaste.
Non, il n'était pas cinéaste.
Il était passionné.
Il était scénariste, directeur d'une revue de cinéma qui s'appelait Cinema, tout simplement, Cinema, dont il était le directeur. Il était producteur, il avait créé une compagnie de production, il a produit des films et s'est épanoui. Alors après, pendant la guerre, il a été obligé finalement de suivre son père et va davantage s'occuper de politique. Et après la guerre, trop lié au passé de l'Italie, il va s'expatrier, il va aller vivre en Argentine.
Un dernier mot peut-être pour les festivaliers, quant à cette programmation, qu'est-ce que vous leur recommandez ? Peut-être que vous retenez un film plus que d'autres éventuellement ?
Oui, bon, évidemment, le film qui me vient à l'esprit, parce que j'aimais beaucoup son auteur, c'est Ettore Scola, c'est Une journée particulière, qui est peut-être un des sommets à la fois de la carrière de Scola, mais un des sommets de la représentation de l'époque fasciste, avec une justesse. Scola avait une préparation idéologique qui lui permettait de parler de tout ça avec beaucoup de précision, beaucoup de sensibilité et avec des acteurs prodigieux. Il arrive à tirer de Sofia Loren et de Marcello Mastroianni des accents qu'ils ont rarement, quoi. Notamment Sofia Loren transforme le personnage de Sofia Loren, qui était avant tout une femme glamour, en une femme du peuple. Et elle est totalement crédible dans ce rôle de ménagère qui est très loin des rôles qu'elle habituellement elle est amenée à interpréter, quoi.
On écoutait Jean Gilly, historien du cinéma et critique de films. Il participait samedi après-midi à la table ronde « Le cinéma et l'Italie fasciste » au village du festival.
On reste dans l'histoire. Cette fois, c'est Patrick qui nous propose une chronique sur le film « J'accuse ».
« J'accuse » est le titre éditorial signé Émile Zola dans le journal L'Aurore en 1898. C'est aussi le titre du dernier film de Roman Polanski projeté en avant-première dans le cadre de l'Arras Festival Film avec au générique une pléiade de grands acteurs comme Louis Garrel, Jean Dujardin, Emmanuel Seignier, Mathieu Amalric, Vincent Pérez, Melville Poupeau ou encore Benoît Podalydès. Encore un film sur l'affaire Dreyfus, me direz-vous. Comment faire un film original sur un thème connu de tous ou presque ? C'est le pari que Roman Polanski a tenté de relever en faisant du colonel Picard le personnage clé de cette grande fresque historique.
Au nom du peuple français, le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris a reconnu le nommé Dreyfus Alfred coupable du crime de haute trahison.
La leçon à tirer du châtiment de Dreyfus est de montrer au monde ce que nous faisons des traîtres.
Le film commence par la fameuse scène de dégradation du capitaine Dreyfus dans la cour des Invalides et fait ensuite quelques allers-retours dans le passé pour prendre en compte le déroulement d'une enquête bâclée et d'un procès dont le verdict était connu d'avance, tellement Dreyfus, juif et alsacien, paraissait le coupable idéal aux yeux de l'armée et même de l'opinion publique très fortement antisémite. Le colonel Picard, nommé responsable du renseignement, va, après le procès Dreyfus, tenter de faire émerger la vérité au vu de nouvelles pièces portées au dossier. Il va se heurter à l'opposition de tout l'appareil militaire qui va tenter de le réduire au silence.
Vous êtes désormais responsable du renseignement.
Mon colonel.
Si nous découvrons que Dreyfus n'est pas de traître,
je pense que nous devrions agir rapidement dans l'intérêt de l'armée.
Bon Dieu, mon colonel, laissez tomber. Ce sont eux les chefs. Nous suivons leurs ordres.
Je ne veux pas d'une autre affaire Dreyfus.
Ce n'est pas une autre affaire Dreyfus, mon général. C'est la même.
Où est le dossier secret sur Dreyfus ? Désormais, je m'en chargerai personnellement.
On intercepte mon courrier. Je suis constamment suivi.
Peux-tu prouver tout cela ?
Je voudrais éviter un scandale.
C'est déjà un scandale.
Cet obscurantisme va pousser le colonel Picard à faire éclater l'affaire sur la voie publique avec l'appui de Clémenceau et de Zola.
J'ai l'honneur de vous présenter, monsieur Émile Zola.
Quelqu'un doit exposer toute l'histoire. En tant qu'officier d'actif, je ne peux rien écrire là-dessus.
Vous non, mais moi si.
Demandez Laurent, demandez.
J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice d'une des plus grandes iniquités du siècle.
J'accuse le général Billon d'avoir eu les preuves de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées.
J'accuse les experts en écriture d'avoir fait des rapports frauduleux.
Traître !
Quand une société en est là,
assassin !
Elle tombe en décomposition.
La vérité historique est fidèlement retransmise, même s'il y a certains partis pris, notamment dans le choix de minimiser le rôle de Mathieu, le frère d'Alfred Dreyfus, ainsi que dans la mise sous silence des pro-Dreyfusards pourtant nombreux. Les reconstitutions sont très réussies et la distribution est de qualité. Le film dure 2h20 et peut paraître par instant un peu long, mais il constitue un bon moment de culture historique et du grand cinéma à ne pas manquer si vous êtes amateur du genre.
On reste sur le film J'accuse de Roman Polanski. Charles a promené pour nous son micro en sortie de séance samedi après-midi.
Très belle histoire. D'autant plus qu'elle est réelle en plus.
Bah, c'était passionnant. Enfin, ça n'a pas semblé long. C'est tout le suspense va en grandissant.
La perfection, tout simplement, donc du bon Polanski.
Bon Polanski. Et des super acteurs.
Jean Dujardin et
vos correspondants.
Très bien.
Dreyfus aussi, très bien. Ouais.
Non, très très beau film, très bien tourné, Jean Dujardin, superbe. Je suis enchantée d'être venue, voilà. Le rythme était très bien et il y avait vraiment des réflexions qu'on peut se faire vraiment sur la situation. Vraiment, j'ai très, très bien apprécié.
Un film magnifique, dommage que Polanski soit aussi impliqué dans une affaire.
L'image, la qualité... De la réalisation. J'adore Polanski et c'est à la hauteur de ce que j'attendais.
Voir ce film une fois, c'est pas suffisant. Ça donne envie de le voir une deuxième fois parce que
C'est un film superbe, mais qui pose des questions.
Dernière partie de ce journal du cinéma, l'agenda du jour du Arras Film Festival. Aujourd'hui, lundi 11 novembre, jour férié. Profitez-en pour aller voir un maximum de films. Et surtout, n'oubliez pas de réserver en avance, hein, parce qu'il y a encore pas mal de monde cette année au festival. Gros succès, et tant mieux. Il y a 32 films, pas moins, proposés aujourd'hui. On ne va pas pouvoir vous parler de tout. Charles, un rendez-vous matinal ?
Oui, aujourd'hui à 9h30 au casino Made in Bangladesh, œuvre du Bangladais Rubaiyat Hossain sur les conditions de travail et les droits sociaux dans les usines textiles et l'émancipation des femmes notamment.
Toujours en matinée, cette fois-ci à 10h, un ciné-dance en salle 2 du Megarama. Alors c'est à la fois des films d'animation, du théâtre d'objets, du théâtre d'ombre et de la danse participative. Et c'est pour les enfants dès 3 ans. Toujours pour les enfants, la famille Adams, on a bien envie de voir la version film d'animation de ce classique télé et cinéma. La famille Adams, c'est aujourd'hui à 14h, c'est à partir de 7 ans.
À 16h30 au Megarama, le film Sol, c'est une avant-première sur ce Arras Film Festival. C'est un drame mêlant le tango argentin et l'histoire tragique, celle d'une rupture de tous les liens entre une mère et son fils.
Et puis un peu de cinéma de l'Est avec un film serbe qui s'appelle Stitches dans la catégorie Vision de l'Est. Stitches, c'est l'histoire d'Anna qui tente de découvrir la vérité sur la disparition de son enfant. C'est une histoire qui est inspirée de faits véridiques. L'actrice principale du film qui s'appelle Snezana Bogdanovic sera là pour échanger avec vous après le film. Et la séance est à 19h au Megarama. C'est la fin de ce journal du cinéma épisode 1. Prochain épisode, si tout se passe bien, demain en seconde partie d'Info 30, 7h45, midi 45 et 18h15. Bon festival Charles.
Bon festival Nico. Thank you.